La radio adventiste Béthanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis de la prière, bonsoir. Tout le monde va bien? Vous allez bien? Vous avez eu une bonne journée par la grâce de Dieu? Disons ensemble merci Jésus. Amen. C'est un privilège d'être ensemble ce soir à nouveau pour continuer avec cette semaine qui précède la campagne. Vous savez aussi bien que moi que cette semaine gravite autour des 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix. Vous êtes là? Combien de paroles est-ce qu'il a prononcées sur la croix? 7 paroles. Hier soir, nous avons vu la première parole prononcée par le Christ. Et cette parole disait quoi? Je voudrais entendre tout le monde. Cette parole disait quoi, frères et sœurs? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, j'aurais pu hier soir poser la question, est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient effectivement? Je n'ai pas posé la question parce que ce qui m'intéressait, c'était le pardon. Le pardon qui remet les choses à l'endroit. Si le péché met les choses à l'envers, le pardon le remet à l'endroit. J'avais profité hier soir pour vous dire que ce pardon demandé par Jésus pour ses bourreaux à la croix, ce pardon n'est pas, je l'avais dit, si vous vous rappelez, ce pardon n'est pas une généralisation. Vous vous rappelez de cela? Ce pardon n'était pas une généralisation. Jésus n'a pas demandé pardon pour les péchés passés, il n'a pas demandé pardon pour les péchés futurs, mais il a demandé pardon pour le péché que commettent ces hommes immédiatement sur la croix. Et j'avais dit que c'était un ordre commun, un ordre particulier. Vous avez oublié, c'était un ordre particulier, un ordre ponctuel. Quand je dis ponctuel, cela veut dire un pardon séance tenante. Ce soir, nous allons voir la deuxième parole prononcée par Jésus sur la croix. Je ne sais pas si on peut afficher pour moi le texte sur l'écran, le texte qui me servira de toile de fond pour le message de ce soir. Dans Luc 23, verset 43. Bien avant, nous lisons, si vous avez vos Bibles en main, ouvrez votre Bible pour lire avec moi ce texte. Luc chapitre 23, le verset 43. C'est ce texte qui nous servira de tremplin pour le message de ce soir. Luc chapitre 23, verset 43. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est, si vous regardez bien, ce qui est entre parenthèses, c'est la version Louis II. Vous êtes là? C'est quelle version affichée ici? Nous l'avons, qui version claire, frères et sœurs? La version Louis II. Écoutez bien, dans la Bible, dans la traduction de Jérusalem, voilà ce que j'ai trouvé, dans la Bible de Jérusalem, il est écrit « En vérité, écoutez bien, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce texte dit une chose, ce texte aussi que nous avons dans la version Louis II, dans la Bible de Jérusalem, qui dit « En vérité, je te le dis, virgule, en vérité, virgule, je te le dis. » Virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que dit la Bible de Jérusalem. Maintenant nous sommes dans les évangiles synoptiques. Quand je dis évangile synoptique, qu'est-ce qu'on voit? Évangile synoptique. L'évangile de Matthieu d'abord, ensuite l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. C'est ce qu'on appelle l'évangile synoptique. Syn de mot grec, syn et opsis. Ce qui signifie voir ensemble. Des évangiles. Bon, mon petit son, s'il vous plaît, voir m'a fait trop fort parce que je vais le prêcher toi, je ne suis même pas capable. Merci. Donc, évangile synoptique, et c'est évangile qui décrit presque, et on a dit ministère Jésus presque de la même manière. À la différence, l'évangile de Jean est un peu différent. Je le dis souvent. Maintenant, dans ce texte que nous allons analyser ce soir minutieusement, Luc, qui est le seul auteur païen du Nouveau Testament. Quand je dis païen, ce n'est pas qu'il n'a pas été baptisé. Non, ce n'est pas ça. Luc n'est pas de nationalité juive. Il n'est pas juif de chair et de sang. Il était grec de nationalité. Donc, il n'était pas un témoin oculaire. Il n'a pas vécu ces événements. Il ne les a pas vus. Si vous lisez dans Luc 1er, vous allez voir que Luc dit, après avoir effectué des recherches. Il m'a paru bon de te les exposer par écrit. Luc sait très bien en lui-même que l'inspiration n'exclut pas la documentation. Vous pouvez être inspiré, c'est vrai. L'inspiration, c'est l'axiome de Dieu. Vous pouvez être toujours inspiré, mais il faut faire des recherches. En ce sens, Luc a fait des recherches. Et les trois évangiles synoptiques mentionnent que deux malfaiteurs ont été crucifiés en même temps que Jésus. Jésus, en même temps. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que à Golgotha, Golgotha qui signifie le lieu du crâne, trois croix sont plantées. Combien de croix t'es gagné à Golgotha, frères et sœurs? Trois croix, pas de gain plus. Première croix, il y aurait l'antéologie, la croix de l'impénitence. Comment dit Aurélie, frères et sœurs? La croix de l'impénitence. La deuxième croix, c'est la croix de la repentance. Comment deuxième croix, Aurélie, frères et sœurs? La croix de la repentance. Et la troisième croix, c'est la croix de la délivrance. Trois croix à Golgotha. Trois personnalités fort différentes. Trois malfaiteurs. Trois brigands. Hein? Disent les textes. Trois malfaiteurs, trois brigands. Trois itinéraires. Écoutez bien. Trois itinéraires. Trois destins. Il est vrai que les chrétiens ne parlent pas du destin. Nous parlons de préférence de la providence de Dieu. Dieu voit les événements à l'avance. Ok? Maintenant, trois destins et trois choix de vie. Je voudrais ce soir que chacun de vous regarde ces trois croix plantées à Golgotha. M'darmé aussi que nous, chaque qui là, nous repositionnons par rapport à quoi ça y est. M'darmé que nous, chaque qui là, soyez frères et sœurs, nous menons une enquête personnelle, individuelle, sur quoi ça y est, qui croyez et qui ça y est capable de symboliser pour nous-mêmes qui là, soyez. M'ba connaît ou même qui là, qui croit, capable de servir ou de modèle. Est-ce la croix de l'impénitence? Est-ce la croix de la repentance? Et la troisième croix, c'était quoi? Est-ce la croix de la délivrance? Trois croix à Golgotha. Mais bien avant d'entrer dans le message de ce soir, voyons le contexte socio-religieux. Jésus mourit, qui joue? Pas la même. Jésus mourit, qui joue, frères et sœurs? Vendredi. Comme on dit dans le sabbat, c'est pas vrai du tout. Il va mourir dans le sabbat. Robin Mati. Hein? La veille préparation. Ok, Jésus mourit vendredi. Maintenant, on allait. À l'époque, dans qui ça nous était? Nous étions dans une fête. Quelle fête? À la veille de la fête de la Pâque. C'est contexte en fait, contexte socio-religieux. Nous étions dans une ambiance festive et joyeuse. C'était la Pâque, la préparation de la Pâque. Cette fête est là pour rappeler un événement historique. Quel événement? Rappelez la Pâque. La Pâque rappelait la sortie de l'Égypte, la sortie d'Égypte de l'esclavage. Après combien d'années? Après 430 ans. Israël a passé 430 ans en esclavage. Après 430 ans, le Seigneur est descendu et il a dit à Moïse sur la montagne, j'ai vu quoi? La souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Et le Seigneur a libéré Israël. Il a libéré ses enfants après 430 ans d'esclavage. Nous sommes en train de faire le contexte, même beaucoup entrer dans le texte là. Maintenant, la Pâque, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Depuis temps de parler de Pâques, depuis temps de ça, dans la Bible, ou l'île dans la Bible, la Pâque, c'est le passage de quoi? De l'esclavage à la liberté. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la Pâque. Jésus, avant son ascension, il a remplacé la Pâque par la Sainte Cène. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Il n'est plus question de Pâque, mais il est question de quoi? De Sainte Cène. La Pâque a remplacé. Hein? La Sainte Cène a remplacé la Pâque. Maintenant, la Pâque rappelait la délivrance de l'esclavage. De l'esclavage, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. La Pâque regardait en deux directions. Écoutez bien ce que je vous dis. La Pâque regardait vers deux directions. La première direction, c'est en arrière vers l'Égypte. C'est un regard rétrospectif où le peuple gisait dans l'esclavage. La Pâque regardait vers deux directions, un regard rétrospectif en arrière vers l'Égypte. Et la Pâque regardait aussi dans une autre direction, c'est en avant vers la croix, vers la première venue de Jésus. Aujourd'hui, il n'est plus question de Pâque, mais il est question de quoi? de Sainte-Seine. Et la Sainte-Seine aussi, quant à elle, regarde en deux directions. La Sainte-Seine a un regard rétrospectif en arrière vers la croix. Et la Sainte-Seine a un regard vers le futur, vers la seconde venue de Jésus. Amen, frères et sœurs. C'est ce que dit la Sainte-Seine. De même que la Pâque regardait vers deux directions, la Sainte-Seine, quant à elle aussi, regarde vers deux directions. Maintenant, ce vendredi, frères et sœurs, ce vendredi qui était la veille de la Pâque, il y a des gens qui ne parlent pas de problème avec eux, parce que ils ont toujours dit Jésus ressuscité dimanche Pâque, et nous parlons ça à Soya. Est-ce que c'est réalité? Est-ce que c'est réalité? Maintenant, ce vendredi, c'était la veille de la Pâque. On allait célébrer la Pâque. Et la Pâque rappelait la délivrance de l'esclavage, la sortie de l'Égypte, le Seigneur qui a manifesté sa puissance, le Seigneur qui a fait les sacrifices de titans pour délivrer son peuple qui gisait dans l'esclavage. Maintenant, ce vendredi, 14 Nisan, dans le calendrier juif, Nisan, 7e mois dans le calendrier juif, Nisan. Et ce mois correspondait entre mars, au mois de mars et avril. Dès que vous entendez Nisan, il correspond à deux mois. Qui moi me dit, frères et sœurs, mars et avril. Est-ce que c'est clair pour nous-mêmes? Ok, n'a pas avancé. Maintenant, ce vendredi 14 Nisan, t'as supposé qu'il y a fête en Israël. Mais ambiance là pour le gâter. Pour qui ça? Tout le monde qui sortit dans toutes les villes d'Israël. Parce que tout ce qu'il y avait à se faire de manière religieuse, les fêtes religieuses se célébraient à Jérusalem. Si vous étiez dans une autre ville, il va falloir laisser cette ville et venir à Jérusalem. Parce que tout ce qu'il y avait à faire de nature religieuse, tout cela se faisait à Jérusalem. Et à Jérusalem, frères et sœurs, Jésus allait donner sa vie. Il allait verser son sang. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, parce qu'il était venu pour nous sauver de nos péchés. Je ne dis pas dans nos péchés, mais Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ok. Maintenant, vendredi 14 Nisan, ça, c'est fête, c'est Pâques. Tout le monde vient fêter à famille. Parce que si vous étiez, par exemple, en Juda, si vous étiez à comment pourrait dire ça, à Béthanie, eh bien, vous allez laisser Béthanie pour venir à Jérusalem. Parce que la fête se célébrait à Jérusalem. Et le juif qui se respectait, parce qu'à cette époque, on ne parlait pas de croyants, on ne parlait pas de chrétiens, pardonnez-moi, on ne parlait pas de chrétiens, on parlait de croyants. Parce que Jésus n'était pas encore mort, il n'avait pas encore cassé sa pipe. À cette époque, on ne parlait pas de chrétiens. Si vous parliez de chrétiens à cette époque-là, ce serait ce qu'on appelle en théologie un anachronisme. Anachronisme. Confusion de date, confusion d'époque. Vendredi 14 Nisan, Jésus prend le mourir. Maintenant, pas de monde qui ne connaît, parce que Jésus a été haï, il a été trahi par ses disciples, pas par ses disciples, mais il a été trahi par Judas qui l'a baisé, qui l'a livré. Et c'est Judas qui a fait la proposition, qui dit juif yo, qui ça nous voulait moi pour me livrer le banon. Et ce vendredi-là, Jésus a été maltraité après un simulacre de jugement. Je ne t'ai montré hier soir. Jésus a été maltraité. Il a été condamné. Condamné pourquoi? Parce qu'il se disait fils de Dieu. Si vous lisez avec moi, dans Luc chapitre 23, le verset 37 et 38, vous allez voir cela. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Lisez avec moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est écrit? Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et la raison pour laquelle on a crucifié Jésus, la raison est là. La raison crève les yeux. Ça tombe sous le sens. C'est écrit ici. Regardez bien. Celui-ci. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est. Attendez, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est écrit sur cette ligne? Jésus. Celui-ci est. Le roi des Juifs. Et si vous vous rappelez bien hier soir, je vous ai dit que ce message était écrit en trois langues. Combien de langues avais-je dit? Trois langues. C'est lesquelles? Nous pas là. Qui l'a gueté? Le grec? Qui l'a encore? Latin, merci. Et l'hébreu. Les trois langues officielles. Cela rappelait la seigneurie universel de Jésus. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs? Il est Seigneur, il est Dieu. Maintenant, On nous retourne dans le texte là. Nous faisons le contexte. Vendredi, Jésus pral mourir. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Dans toutes les villes d'Israël, les gens venaient en foule, en masse, parce que la Pâque allait venir. Et le chrétien qui se respecte, pardonnez-moi, le croyant qui se respecte, n'allait pas rater cette occasion en or. Il fallait saisir cette occasion aux cheveux et monter à Jérusalem pour venir fêter avec le peuple. Maintenant, ce vendredi 14 Nisan, je vous ai dit que le mois de Nisan, c'est le 7e mois dans le calendrier juif. Et quand vous entendez parler de Nisan, ça correspond à quel mois? Et je dis, mars et avril. Jésus sur la croix, le vendredi 14 Nisan, il a passé environ 6 heures sur la croix. La croix, et je l'avais dit hier soir, c'est le plus haut sommet. Et c'est sur cette montagne, la montagne de la croix, que le Seigneur Jésus, il a réalisé l'énoncé. Alors les grands théologiens le disent ainsi, permettez-moi, je vais l'expliquer. Les grands théologiens le disent ainsi, Jésus a réalisé l'énoncé contractuel, écoutez bien, contractuel, disjonctionnel et conjonctionnel. Trois gros mots, excusez-moi. L'énoncé contractuel, dans contractuel on voit quoi? Contrat. Il a réalisé le contrat parce qu'il devait venir. C'était la clause du contrat. C'était ce qui a été prévu dans la divinité après le péché. Même bien avant le péché d'Adam et Ève. Parce que le péché n'a pas pris Dieu au dépourvu. Dieu savait que Adam allait pécher. Mais Adam n'était pas obligé de pécher. Et Dieu avait dit, mais s'il pêche, je sais qu'il va pécher. Mais s'il pêche, voilà ce qu'on va faire pour racheter l'humanité. Et Jésus était celui qui était destiné à venir mourir pour l'humanité. C'est ce qu'on appelle le contrat, l'énoncé contractuel. Maintenant, pour réaliser le contrat, il a fallu une disjonction. Il a fallu qu'il y ait une disjonction. Quand je dis disjonction, nous voyons qui ça? Pas là, nous voyons qui ça? Séparation. Jésus s'est séparé de son Père. Il s'est séparé de l'Esprit Saint. Jésus a dû quitter sa gloire. Il est venu sur la terre. Il a voilé sa gloire. Jésus n'a pas abandonné. Jésus était Dieu, quoi qu'il était sur la terre. Mais il a voilé sa gloire. C'est ce que les théologiens appellent kénose. Excusez-moi, c'est qu'on s'est lié en théologie. Il y a eu ça kénose. Jésus, il s'est abaissé. Maintenant, pour s'abaisser, il a fallu qu'il y ait une disjonction. L'énoncé contractuel, disjonctionnel et conjonctionnel. Dans conjonctionnel, on voit quoi? Qu'est-ce que ça nous est, dans conjonctionnel? On voit conjonction. Conjonction, ou qui ça? Ou addition. Addition. Maintenant, il y a des gens qui viennent fêter en Israël parce que la Pâque allait venir. La Pâque allait venir et le spectacle sinistre de ces trois croix a plombé l'ambiance de la fête. À Jérusalem, ce vendredi 14 Nisan, frères et sœurs, 14 Nisan, c'est la panique totale. Tout le monde est choqué. Tout le monde sous choc. Ce vendredi 14 Nisan, à la première parole sur la croix, Jésus avait fait quoi? Il avait demandé pardon pour ses bourreaux. Je l'avais dit hier soir, ce que Dieu n'a pas exigé d'Abraham, les hommes pécheurs l'exigent de Dieu en sacrifiant son fils. La crucifixion de Jésus, c'est l'ultime liberté concédée par Dieu aux hommes. Et ce que je déteste, ce qui m'écœure, et je le dis avec un pincement de cœur, pendant cette semaine, il n'y avait pas de musique dans le ciel. Les anges se taisent. Je me suis rendu la semaine dernière à une librairie pour acheter un ouvrage et j'ai trouvé ce titre, Le silence des anges. Les anges se turent dans le ciel. Ils n'ont point chanté parce que le ciel était en tristesse. Le Père allait voir son fils suspendu sur la croix, haï par les uns, maltraité par les autres. Il a reçu 40 coups moins un. Il a été maltraité sur la croix parce qu'il était venu sauver vous et moi. Frères et sœurs, à la première parole, Jésus a demandé pardon pour ses bourreaux. À la deuxième parole que nous allons voir ce soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il va sauver un brigand repentant. Qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? Il va sauver qui? Qui ai-je dit? Un brigand repentant. Brigand, voleur, j'en voulais dire, par contre, qui soit dit, qui qualificatif, va prendre. Mais il semblait. Un brigand. À la première parole, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a demandé quoi? Pardon pour les péchés de ses bourreaux. Pardon immédiat, est-ce dit. immédiat. Et parce que le texte, dans le texte, c'est un impératif aoriste actif. Et ce temps, en français, traduit un événement ponctuel, immédiatement. À la deuxième parole, sur la croix, Jésus va sauver un brigand repentant, se décentrant sur lui-même et de sa douleur, parce que Jésus souffrait de toutes les fibres de son être. Parce que, vous vous rappelez cette histoire, quand Jésus a prié auprès du rocher, et le texte dit qu'il y avait des grumeaux de sang qui... Pas la même, nous comptons ça. Des grumeaux de sang. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Les amis, bon, si son bac a dit trop, s'il vous plaît. Gemon ne pas comprendre ça. On allait rapide. Yo pensait son conte de fées, son fable. Non. Ça capable prouver par la science. Et ça qui fait que yo dit à Golgotha c'est l'antichambre de la croix, parce que Jésus aurait pu retourner au ciel. Et si Jésus est retourné au ciel, moi avant nous foutu, nous fini. C'est à Golgotha que décision prend tout bon vrai. Les Jésus, ouais, bah, galère, elle est pour lui. Jésus a le prié. Jésus prend le disciple, il dit, monsieur, on a le prié avec. Bien aimé, en tant qu'humain, quand l'on arrive, bah, galère, ou besoin d'être dans la prière. Mais on joue la croix, bien, frère, monsieur. Quand l'on a envie, on mette fort, ou fort, on mette gros chrétien, gros diac, gros frère, gros pasteur, sorti, y'a pas qu'on est, quand l'on écrive, ou besoin d'un monde pour être dans la prière. Et Jésus, dans son humanité, les gens qui parlent le latin diraient, vere homo, vere deus. Vrai homme, vrai Dieu. Dans son humanité, il s'est senti affaibli et il a demandé aux disciples de prier en sa faveur. Et les disciples ont été assoupis, ont été emportés par le sommeil. Travail Satan, Jésus a prié et Jésus dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, Père, pendant trois fois, et le ciel est dans la consternation. Le Père a gardé petit lit sous la terre qui pourra mourir pour ses ingrats. Et Satan, quand dit Jésus, hein, et pour bon monde, ça va, on va mourir, bon hypocrite, ça va, monde, ça va, c'est au poil trahir, c'est au poil crucifier. Satan, là, la montée de Jésus. Jésus faiblit. Et il a failli retourner vers son Père dans le ciel. Et si Jésus est retourné, frères et sœurs, vous et moi, nous serions perdus à tout jamais. Voilà pourquoi ce soir, celui qui est sauvé n'a pas besoin de se vanter, n'a pas besoin de se gonfler la poitrine comme une colombe pour se glorifier parce qu'il est un grand chrétien. Non, la Bible dit c'est par la grâce, comment vous êtes sauvé, par le moyen de quoi? De la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Jésus, sur la croix, il a à sa première parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon pour l'un des bourreaux, pour ses bourreaux. Et à la deuxième parole, il a sauvé un brigand, un voleur. Ce brigand, assurément, faisait partie de ceux qui l'insultaient. Et Mbalil avait assuré là, pour Noël, ce brigand faisait partie de ceux-là qui l'insultaient. Nous l'y avons dans Marc chapitre 15, verset 32. Est-ce qu'on peut afficher pour moi ce texte sur l'écran, s'il vous plaît? Marc chapitre 15. Le verset 32. Nous allons nous lire avec. Marc chapitre 15, verset 32. Lisez avec moi. Qu'est-ce qui est écrit ici? Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de quoi? De la croix. Afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifié avec lui l'insultait aussi. Est-ce que c'est clair, Gounia? Est-ce que c'est Matima Baye? Non. Ce brigand repentant, parce que je vous ai dit qu'à Golgotha il y avait trois croix. Quelle croix? Et je dis la croix, trois croix. Lesquelles? Nous parlons là, frères et sœurs. Qui croit, frères et sœurs? La croix de l'impénitence, la croix de la repentance et la croix de la délivrance. La croix de l'impénitence, c'est le larron qui ne s'est pas repenti. Impénitent. La croix de la repentance, c'est quoi? C'est le larron qui s'est repenti. Vous êtes là avec moi. Et la croix de la délivrance, c'est quoi? C'est la croix de Jésus. Amen. Maintenant, les brigands l'insultaient. Ces brigands, yo bay non yo, maba nou non yo aswa, sin pa konnen la pou konnen. Deux brigands yo, Gesta et Dimas. Aïe, go recherche, oui. Maba nou non yo aswa, deux brigands yo, Gesta et Dimas. Deux vagabonds, excusez-moi pour l'expression, c'est pas faute moi. Ne cap prend faire moun, craser moun, touyer moun et m'pa konnen si te kon violer moun tout m'pa konnen, mais deux nèg mauvais renommé, k'ap fè sak pa ça. qui a fait ça, pas ça. Mais une bonne nouvelle pour Asoya. Vous avez une bonne nouvelle liée, frères et sœurs. Quel que soit sorte qu'on fait qui mal, de pouvoir venir joindre Jésus, l'a sauvé pour l'éternité. Est-ce que vous croyez dans ça, frères et sœurs? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça m'a réfléchi, m'a regardé. Frères et sœurs, si l'éternel t'a mis les gens l'église dehors, on faut réfléchir, on faut pas la même. On faut pas la même. Si bon Dieu t'a mis les gens dehors, ou même t'a regardé les gens sous sorte et fait, combien de gens t'a pris l'église? Pas la même, frères et sœurs, pas la même. Combien de gens t'a pris l'église? Ouais, même, c'est pas grave, je regarde avec des les chrétiens gonflent le corps, gonflent le corps, comme si c'est gros chrétien, c'est ceci, c'est là. Parce que c'est un côté, bon Dieu prend, c'est meilleur là, pour t'arrêter, oui, amen. Parce que côté le retiro là, c'est celui qui a fait ça, amen, frère et soeur. Lui prend dans la boule, prend nos fat là, gagne nous la fonta boko, gagne nous fonta ou gang, gagne nous fonta ou cyclozo, gagne nous fonta mambo, Jésus prend nous, lui chasse tout baka, elle bat la vie éternelle pour le temps et l'éternité, amen. C'est l'éternel qui est Dieu. Ce brigand sur la croix l'insultait aussi. Et Jésus s'est décentré sur ses souffrances. Il n'a plus vu ses souffrances, mais il a vu le salut des autres, le salut de ceux-là qu'il était venu sauver. Que dit la Bible? La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous êtes déjà sauvés, tant pis. Ah, tant mieux. Excusez-moi, tant mieux. Mais même qu'on aime beaucoup sauver, parce que le salut n'est pas définitif. Debout sous la terre, puis on a toujours glissé. Et ça fait, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la Bible dit aussi, retiens ferme ce que tu as, afin que... Est-ce qu'on l'a résisté? Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sous quoi on a déjà sauvé, et on a déjà grillé. Pas qu'il a fait sauver net. Pour sauver, il faut rester dans la consécration. Amen, mes sœurs. Jésus décentré sous souffrance li. Et lui tendait la ronyo qui a discuté. Je vais faire une discussion que la ronyo a fait. Son bagage est terrible. L'aime li bagage ça. L'aime garder tête grecque là même bombe tomber dans nuit. Je vais pas comprendre ça. Frères et sœurs, deux nègres qui ont fait ça quoi ça? Craser moun, voilà faire moun, pas qu'on est violé moun, kidnapper faire moun. Il a fait ça quoi ça? Ils ont pris le crucifié même leur avec Jésus et ils ont été crucifiés. Et ces deux brigands, Gesta et Dimas, ils ont accompagné Jésus dans le prétoire de Pilate jusqu'à Golgotha. Ils ont vu, ils ont entendu les accusations portées contre Jésus. Et yon un bagay que le peuple a dit, frère et soeur, il y a deux bagay chrétiens, pas dit à bouchou. La parole est sacrée. Est-ce que vous connaissez ça? Parole là, bon effet que le fait. Et ça fait maman qui a dit petit, tu comme ça. Ou pas, je m'en ai vous. Et bien, si vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Parce que la parole est une puissance. J'aurai à vous le montrer pour le premier jour de la campagne. Parce que je vais parler du davar, le davar, le logos, la parole créatrice de Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien. N'est-ce que vous ça qu'a dit. Et vous n'avez pas dit que juif vous avez dit à l'éternel. Vous n'avez pas dit à Pilate. Vous dit Pilate, si tu le relâches. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus, à Pilate, frères et sœurs? Si tu le relâches, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas ami de César. Il y aurait ça Amicus Caesaris. C'était un titre honorifique. Et dès que quelqu'un perd ce titre, vous allez subir toutes les persécutions du monde. Et Pilate, malheureusement, s'est laissé mater. Il s'est laissé pris au piège. On lui a tendu ce piège. Et Pilate a fini par faire ce que je pourrais appeler une nouvelle concession. Une nouvelle concession qui a trahi sa faiblesse et qu'il a livré à la volonté des adversaires qui étaient plus décidés que lui. Voilà pourquoi il a livré Jésus à la mort. Et les Juifs dirent aussi que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Madame White lit ça dans Jésus-Christ, écrit par Madame White. Madame White dit un bagage qui, bagage ça va me problème, il va peut-être faire mal. Madame White dit si toute prière, Juif, on te compte faire, bon, je ne vais pas content d'elle, mais ça, l'étendue. Pas comme cela avec vos sœurs. Si toute prière, je fais des bonnes faire, bon, je ne vais pas contenter ça. L'étendue. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et là, nous avons dit clairement dans Jésus-Christ, ce terrible cri monta jusqu'au trône de Dieu. Et en l'an 70, je vais payer ça. Nous ne connaissons pas comme ça. en l'an 70, général Titus rigole sans couler, en Israël. Je dis à Juifs dispersés, disséminés à travers le monde. Je dis à y aurait les diaspora. Les autres ont mon diaspora, moi mon gars mon petit gonflé quand y aurait le diaspora. Diaspora est moi. On a diaspora, on a poussé col, les États-Unis, les Canada. Diaspora, son mot grec qui veut dire moun qui dispersé, moun qui a le tchèque, moun qui parle à caillou. C'est ça, diaspora, blési. Moun capitaine Resbe, non mais moun. Que mon autre diaspora de l'autre Haïti boîte de son regardez yo pousse corps yo gonfler les sommes yo parce que yo c'est diaspora de what. Diaspora veut dire dispersé, disséminé à travers le monde. Frères et sœurs, les Juifs ont été dispersés en l'an 70 et ces deux brigands insultaient Jésus. Nous allons lire ce soir, frères et sœurs, beaucoup entrer dans le texte là, non c'est vini m'a vini ou m'entrer dans le texte là beaucoup j'aime dire ça me dit là, non. C'est contexte m'a fait. Parce que pour m'expliquer le texte, il faut me faire contexte là. Un théologien ne peut pas prêcher sans faire le contexte du texte. Écoutez bien. Vous allez lire avec moi dans Luc 23, les versets 39 à 43. On nous parle ensemble. S'il vous plaît, opérateur, affichez le texte pour moi. Luc 23, versets 39 à 43. Nous parlons de discussion qui a gagné sur la croix. Lisez avec moi. Nous ne pouvons pas courir. Prenez son nom pour nous lire avec moi. Ça dit là. Crucifié. L'injurié. Disant, qui ça? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. En fait, comme là, l'autre dit l'autre le reprenait. Qui l'autre ça a parlé là? L'autre là, où, hein? Qui ça le dit? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation en avancé pour nous. Qui ça le dit là? Pour nous. C'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Celui-ci remplace qui est son texte? Jésus de Nazareth. Ah, nous faut. On avance. Et il dit à Jésus. Qui ça le dit? Il dit à Jésus. Aïe, aïe, aïe. Regarde les femmes d'Adesson, j'ai un bagage à la gâte. Sans bam d'Adesson. Oui, monsieur dit Jésus, qui ça? Souviens-toi. De moi, qui est-ce qui a parlé là, frères et sœurs? L'un des larrons, le larron repentant. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen, frères et sœurs. Il y a un nombre grand que Jésus dégage. Ah, Jésus, regarde son faux prophète. Regarde ses hommes, les abysses, c'est menti. Bon, on va pas sauver, sauver-toi, puis sauver-nous tous. Il y a l'autre qui dit, mais on ne peut pas craindre bon Dieu ou même. Nous-mêmes, ça n'a pas passé à là, c'est. C'est ça nous fait à payer, frère et soeur. Il n'est pas facile, non? Pour nous prendre conscience, là, dans ça qui est mal. Nous allons pas là, frère et soeur. Nous ne pas comprendre ce que je veux dire. Les gens qui sont mal, il n'est pas jamais facile pour conscience que tu es mal agi, non? Et ça fait que l'on a péché. Et pas n'importe qui a le côté. Il faut qu'on parle, il faut qu'on prie pour le côté ça. Parce que les gens qui ont péché, ils sont orgueilleux. Ça te fait l'orgueilleux, ça te fait le gonfler le col dans le péché. Frère et soeur, l'un des brigands. Les brigands l'insultaient, mais l'autre le reprenait pour lui dire, mais ne crains-tu pas Dieu. La crainte ici, n'est pas synonyme de la peur superstitieuse qui paralyse. Cette crainte ici, ce n'est pas la crainte superstitieuse qui paralyse, mais la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, car sa gloire subsiste à jamais. Ce brigand, il a reconnu sur la croix plusieurs choses. Et vous ne pouvez pas le montrer, pas de jambes de ouais, le montrer, pas de qui ça nous remarque? Est-ce que nous ne pouvons pas voir un brigand qui changeait subitement? Nous ne pouvons pas voir ça? Pas la même. Nous ne pouvons pas voir un brigand qui changeait subitement? Un changement fait dans lui? Subitement. Ce brigand aussi insultait Jésus, mais semble-t-il qu'en un instant, quelque chose a changé. Amen. Dans le cœur de cet homme. Sur la croix, frères et sœurs, l'un des brigands est visité par la grâce de Dieu. Amen. L'un des brigands est visité par quoi? Et je dis par la grâce de Dieu. Sa conscience a bougé. Il y a certaines gens qui sont à l'église, mais malheureusement, leurs consciences sont cautérisées. Mais ce brigand, ce malfaiteur qui prenait ce qui ne lui appartenait pas, ce kidnappeur, ce séquestreur, maintenant, monsieur repenti sur la croix. Et voilà que bon changement qui fait. L'un des brigands, visité par la grâce, sa conscience a bougé et sa conscience s'est réveillée. Bien-aimé, j'ai cette vérité d'or à vous dire ce soir. Dieu prend en compte l'instant présent. Je ne sais pas comprendre ça, frère et soeur. Dieu prend en compte l'instant présent. Peu importe ce que tu as fait par le passé, ton passé n'aura pas d'avenir. La grâce souveraine, comme l'a si bien dit Georges Stepney dans son ouvrage que j'ai lu. J'ai lu cet ouvrage et cette phrase a élu domicile dans mon cœur. Georges Stepney, un homme que j'aime, un grand théologien, il a fait cette déclaration que j'aime tant. Il dit: la grâce souveraine saura faire jaillir un bien sublime du mal suprême. La grâce souveraine saura faire jaillir un bien sublime du mal suprême. Notre passé n'aura pas d'avenir. Notre passé n'a pas d'importance pour le Seigneur. Ce qui est important pour lui, c'est le présent que nous avons. Amen. Honoré de Balzac a fait cette déclaration dans Probité intellectuelle oblige. Honoré de Balzac, il a dit: entre le passé avec ses souvenirs et le futur avec ses espoirs, il y a le présent avec ses devoirs. Amen. Notre devoir pour le présent, c'est d'aller à Jésus, de lui dire: Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Le brigand est gracié sur la croix. Il est visité par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai relevé pour vous cette citation faite par un auteur. Mais c'est anonyme, j'ai pas eu le nom malheureusement. Écoutez bien cette citation que j'ai relevée pour vous. La grâce de Dieu est plus grande que les erreurs que tu as pu commettre. Demande pardon au Seigneur et avance. Amen. 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 Grâce mon Dieu plus grande que ce que tu fais dans le passé. Mandez mon Dieu pardon et puis avancez. Avancer est obligatoire. Rester statique est contre nature. Le chrétien, quand il est tombé, ne doit pas rester à par terre, mais il doit se lever et dire comme François Capois, Capois la mort. Quand il doit dire en avant, les boulets sont de la poussière. Il doit avancer. Il doit dire adelante, en avancer, en aller, tête droite, n'a pas avancé. Bien-aimés frères et sœurs bien-aimés, je ne connais pas votre passé. Que votre passé soit lourd ou pas, ça ne change rien. Tout dépend de votre ouverture de cœur dans l'instant présent. Il suffit d'un instant pour que le ciel s'ouvre aux yeux de celui ou de celle qui croit. Un instant. Et ça fait gros bagaille que un homme que j'aime, un pasteur dans l'œuvre, est-ce que je dois citer son nom, un ami, il a dit les dernières secondes sont très puissantes entre les mains de Dieu. Amen. Les dernières secondes sont comment? Sont très puissante entre les mains de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui font ville à faire gagote, font ville à bambocher, dans le péché, dans le plaisir. Et puis, sur son lit de mort, il peut mourir. Nous connaissons des gens, je ne sais pas pourquoi ça va Dieu faire comme ça, mais il y a des gens, bon Dieu, sauvé, vous, vas-y, je ne sais pas si c'est une là-dedans, mais même qu'on est sauvé quand même au nom de Jésus. Amen. Dégagez vous sauver, parce que le salut est personnel et individuel. Il y a des gens, bon Dieu, sauvé. Gémon nous mettre la danse dans toute bagaille dehors pour occuper. Bon Dieu, qu'on bagaille la fait pour lui. Parce que là, on s'appelle l'église. La Bible dit de l'église. Et pourtant, il est sauvé. Il est sauvé in extremis. In extremis. Au dernier moment, il est sauvé. Bien-aimés, frères et sœurs. Bien-aimés, Gémon, bon Dieu, sauvé. C'est pas que le salut n'est pas. Bon Dieu voulait sauver tout le monde. Mais dans sa grâce, on va connaître des gens qui disent même tout, des gens qui disent que je vais trop loin à diable, je ne vais pas tourner derrière encore. On va connaître ça. Des gens qui disent pourquoi tu es arrivé là, moi à faire l'église, à faire bon Dieu, à me balader, parce que c'est diable m'a servi, c'est diable m'a aimé. D'ailleurs, nous connaissons Haïti, son pays foncièrement vaudouesque, son pays où nous connaissons vaudou, nous connaissons diable, et bien vrai, il n'y a pas quoi dans bon Dieu. Même content pour me dire à soi, frères et sœurs, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Le larron sur la croix a vécu simultanément. C'est comme s'il y avait une simultanéité. Il a vécu simultanément les deux grands axes de la conversion. Qu'est-ce que j'ai dit? Le larron a vécu simultanément comment les deux grands axes de la conversion. La repentance, deuxièmement, la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen, frères et sœurs. Les deux grands axes de la conversion. De la conversion, la repentance, il s'est repenti. il s'est repenti. George Stepney, dans son ouvrage que j'ai lu, Jésus, l'envoyé de Dieu, pourquoi est-il venu? Il a dit que la repentance est un bouleversement intérieur qui produit un changement radical de direction. C'est ce qu'il a dit. La repentance est un bouleversement intérieur qui produit un changement radical de direction. Il a dit aussi, il a renchéri pour dire plus loin, la repentance, c'est cette prise de conscience qui fait bouger l'homme, qui le bouscule, qui le réforme. George Stepney qui a fait cette déclaration. Maintenant, le larron s'est repenti in extremis. Sa confession est venue comme Mars en carême. Mon qui parle gros français, comme Mars en carême, après nommé. Dans un élan de foi, il a reconnu en Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Ce que les apôtres n'ont pas compris et ont mis du temps à comprendre, à accepter, ce brigand l'a saisi en quelques instants sur la croix. Comme par une révélation intérieure, la grâce est toujours accessible, frères et sœurs, à qui que ce soit, peu importe notre vécu antérieur. Amen. La grâce est toujours de mise. En Luc 23, verset 42, la Bible de Jérusalem, nous lisons ces paroles du larron. Il dit à Jésus, Jésus, attendez bien, oui. Maintenant, on va arriver dans le texte là. Qui ça me dit? Ils font demande. Qui ça le dit? Il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Ça m'a dit là, ou pas besoin dans la Bible du second. Hein? Parce que je suis obligé de faire une comparaison de traduction, de version, pour me joindre sans ce texte là, pour m'expliquer où il y a soi. Maintenant, si vous lisez dans la Bible du second, hein? Ou pas besoin même genre, dans le texte là, ou pas besoin de texte à même genre. Dans la Bible Jérusalem, non? Là où on dit, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume ou bien dans ton règne. Je vais le montrer ce que ça veut dire. C'est la plus grande demande jamais faite par un humain. C'est un acte de foi inimaginable à cet endroit. Et j'ai été sidéré par cette demande. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, pour qui ça mal dans la Bible Jérusalem? Non, c'est parce que Gombagay, Bible second, pas bon moins. Parce que dans la Bible Jérusalem, non, dans la Bible de Jérusalem, là où on dit, Jésus, souviens-toi de moi, comment, quand tu viendras dans ton royaume. Maintenant, il dit Jésus. Le mot Jésus se dit en grec, Yesus. Et on dit Jésus en hébreu, Yeshua, Yeshua. Yeshua, c'est la forme contractée du mot hébreu, Yehoshua. Tenez bien, ça m'a dit, faut qu'on comprenne. Il dit Jésus. Jésus se dit en grec, comment? Yesus. En hébreu, on dit Yeshua. Mais Yeshua, c'est la forme contractée du mot hébreu Yehoshua. Ce qui signifie un sauveur qui délivre à n'importe quel moment. Un sauveur qui délivre à n'importe quel moment. Et ça fait que, regardez-moi le texte là, son acte de foi inimaginable, je ne comprends pas ça. Son bagage phénoménal, parce que je ne comprends pas à ce niveau, non, on est qui pourra mourir pour faire un acte de foi aussi pareil. Et comprenez bien, c'était un païen, quelqu'un qui ne servait pas Dieu, et qui a une lumière qui rentre en dedans. Ce que les dirigeants du peuple n'ont pas pu voir, cela on l'a vu par la grâce de Dieu. Monsieur le Jésus, Yesus. Yesus, c'est le grec, mais l'hébreu c'est Yeshua. Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua, ce qui signifie le sauveur qui délivre. La question que je me suis posée, c'est comment a-t-il pu percevoir et saisir in extremis une telle vérité spirituelle? Non seulement il reconnaît en Christ un sauveur, mais plus encore, entrevoyant sa résurrection, son intronisation céleste, il lui demande de ne pas l'oublier quand il viendra dans son royaume. Monsieur, ouais, en Jésus, le sauveur, lui, ouais, résurrection Jésus, parce qu'il confiait que Jésus a ressuscité. Et troisième bagage, monsieur, fait, c'est comme Simda dit, c'est comme dans le déjà, ce que les théologiens appellent le déjà dans le pas encore. Le déjà dans le pas encore. C'est comme s'il a déjà vu l'intronisation de Jésus dans le ciel. Et il dit à Jésus, comme moi, étant donné que tu es le roi et tu as un royaume à diriger, eh bien, souviens-toi de moi quand tu viendras, comment? Quand tu viendras dans ton règne. En grec, écoutez bien, ma femme pile grec avec Nasoya. En grec, le mot pour royaume, c'est le mot grec basileia. Excusez-moi si je fais un petit gag avec Nasoya. Basileia, c'est qu'on s'allie, je ne vais pas afficher le bout, nous ne vais pas faire Basileia en grec, qui traduit par royaume,
Basileia. Il désignait non seulement le royaume, mais il désignait aussi le règne. Écoutez bien, deux choses. Le mot Basileia, grec, veut dire royaume et aussi le règne. Et le Jésus, ouais, que monsieur Guin a, c'est audace. Parce que le chrétien doit être audacieux. L'homme dit audacieux, ce n'est pas pour un sens péjoratif. Chrétien qui a servi mon Dieu, même s'il perdit, lui quoi il gagne au nom de Jésus. Vous n'avez pas comment ça me dire, oui, chrétien pas jamais perdu bataille. Amen. Monsieur audacieux. Parce que il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Et il a utilisé, lui qui a utilisé le mot basileia en grec. Basileia qui signifie royaume, qui signifie règne. Et cette demande plut à Jésus. Jésus tombé de nu. C'est comme dit Jésus tombé d'amour. Mon nègre dit, comment, regarde, monsieur, regarde, monsieur, arrivé, monsieur, qui a assez audace pour le fond de demande pareil. Et puis, Jésus pour le fond de déclaration, frères et sœurs. Et c'est là, je devais arriver. C'est là. Ouais, tout le monde m'a c'est là, je besoin arriver. Même côté, je aller. Maintenant, Jésus pour le dire, monsieur, bagaille. Jésus même foncèrement. Jésus tellement, monsieur, bagaille là. Lui, c'est menté. En vérité. Jésus pas dit, je nous compte dire en Haïti. Non, ma besoin de dire. Excusez-moi. Amen, je ne vais pas raconter, papa. Je ne vais pas dire, je ne vais pas dire là. Et pas ça, Jésus dit non. Ça passe seulement. Par contre, ça le monde dit. Jésus dit, monsieur, en vérité, on dit la même non. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes amis, il y a des gens qui sont méchants. Et moi, l'expliquer méchanceté. Il y a des gens qui sont criminels. Excusez-moi si je me dis ça. Écoutez bien. Maintenant, tout intellectuel connaît que virgule, l'on place n'importe côté dans le texte, il y a des problèmes. C'est pas ça, frère Oulé. L'on prend virgule, vous mettez n'importe côté, j'en voulais. Vous avez écrit un petit dans mon lettre là, et vous prenez virgule là, vous mettez n'importe côté. Il y a une fille qui a corrigé lettre là, plus mouille, j'ai vu qu'il y a tourné le bac baou. Ah, nous, on va d'accord, ça me dit. Parce que faut qu'on écrit. Comme je dis, vous ne pas écrit encore, pas écrit belle petite lettre encore. Et eh bien oui, là, comme ça. C'est sur WhatsApp là, et puis plop, 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 cool, je le quitte. Et oui. Pas gaffe, faire écrit belle silhouette, bah. Bon, bah, ça m'a dit, je ne connais tout. Non, c'est moi qui ai dit ça. Moi, je ne connais tout. Je ne connais pas l'âge que ça. Maintenant, en vérité, et c'est là que je devais venir, deuxième parole. En vérité, virgule, je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ça, c'est méchant. Et c'est là que je vais venir. Frères et sœurs, c'était la réponse de Jésus en quoi à la demande du larron qui avait dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La réponse de Jésus nous incite à poser cette question. Le larron est-il allé au ciel le même jour? C'est la question que je me suis posée. Pas dit non comme ça, en fondé ma systématique plutôt pour nous, est-ce qu'il était allé? Bien aimé, écoutez bien. Quand on place ces virgules là, là, il y a un problème. Dans le manuscrit, pendant que parle cap venir m'a fait afficher quelques textes pour nous pour qu'on expliquer quelques mots dans la Genèse et dans le Nouveau Testament, quelques mots en grec et en hébreu. Mais c'est parce que il pas facile pour moi pour me capable afficher texte là pour nous, soit texte grec là, à soya, et d'ailleurs même qui m'a affiché nous capable pas qu'à lire parce que c'est vraiment difficile pour lire. Dans le manuscrit grec Luc 23 verset 43, ce texte était écrit en majuscule. En qui ça me dit? Faut nous l'avoir, oui, c'est important, oui. Ce texte était écrit en quoi? En majuscule et sans ponctuation. En majuscule et sans ponctuation. Là, je dis ponctuation, je me dis qui ça? Pas de virgule, pas de point, pas de point virgule, qui ça encore? Pas de guillemets, pas de crochet, pas de marais. Sans ponctuation. Lettre là, t'es écrit, texte là, t'es écrit en majuscule et sans ponctuation. L'écrit, non seulement l'écrit sans ponctuation, et aussi en majuscule, mais le texte aussi était écrit en bloc. L'aime dit en bloc, c'est comme moi tout collé. Je te le dis, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comme si son bagage ou pli, ou pas posé, même ou tout allait net. Parce que il n'y avait pas de ponctuation. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Texte là était en majuscule et sans ponctuation. Maintenant, Jésus dit en vérité, parce que le texte a été écrit en bloc, dans la Bible grecque, il est écrit en bloc, dans le manuscrit en bloc et en lettres majuscules. Maintenant, le texte a été, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La traduction de l'ancienne version Louis II, écoutez bien ce que je vous dis. La traduction de l'ancienne version Louis II a placé la virgule après en vérité, virgule. Et il a placé virgule là avant aujourd'hui. Ça qui t'a voulu dire que Jésus t'a mené là au paradis le même jour de la crucifixion, ce vendredi. Et s'il faut bien traduire le texte, frères et sœurs, la virgule doit être placée après aujourd'hui. Si on veut traduire honnêtement le texte, si vous êtes un bon intellectuel, là, qui lit dans les fins, quelqu'un qui lit, qui fait une lecture entre les lignes, qui passe les textes au peigne fin, faut qu'on côté pour mettre virgule. Qui joue Jésus de mourir? Pas la même. Qui joue de mourir? Vendredi, qui date? 14 Nisan. Nisan qui est capable avril ou bien mars ou bien à ou bien avril. Maintenant, attendez bien. Maintenant, texte là écrit en bloc. Maintenant, s'il faut bien traduire le texte, il va falloir placer la virgule après aujourd'hui. Après qui ça me dit pour que la placer, frères et sœurs? Aujourd'hui, virgule. Pour qui ça? Texte grec l'a dit qui ça? M'a dit un petit grec pour nous. Texte grec l'a dit soi lego semeron met emou et c'est ento paradaiso. Mes amis, va faute moi non? Gagale les force moi. On va faire deux ans étudier, va faute moi mes amis. On allait. Soy lego semeron met emou et c'est ento paradaiso. Je te le dis aujourd'hui, virgule. Je te le dis comment? Aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen, frères et sœurs. Le sens du texte, si on veut saisir la quintessence du texte, écoutez bien ce que je vous dis, si on veut saisir l'essence ou bien la quintessence du texte, en ce jour où je suis cloué sur la croix, je te fais la promesse, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? La ponctuation, quand je dis la ponctuation, virgule, point virgule, ces choses-là ont été inventées en 1493, longtemps après la mort de Jésus, 1493, par un certain Aldus Manicius. Comment l'homme n'a glaré les frères et sœurs? Aldus Manicius. Monsieur, c'est un libraire italien. Même pas parler italien, non? Un libraire italien. L'homme dit libraire, nous avons dit, ah oui? Un libraire italien. Il vivait à Venise. La Venise, c'est la ville des amoureux. Hein? C'est vous, vous qui connaissez l'histoire ou bien. On a un peu de temps à marier à Venise, ah oui? Ville romantique. Maintenant, la ponctuation, virgule, les points virgule ont été inventés en 1493 par un certain italien Aldus Manicius. 1493. C'est alors qu'on a inventé la virgule et les points virgule. Jésus n'est pas allé au paradis ce vendredi 14 Nisan de l'an 31. Jésus est mort en l'an 31. Jésus n'est pas allé au paradis le vendredi 14 Nisan. Son corps est resté dans la tombe. Jésus a observé le sabbat dans la tombe, frères et sœurs. Amen. Jésus a observé le sabbat dans la tombe. Son corps est resté dans la tombe. Il n'est pas ressuscité. Son corps est resté dans la tombe. Il s'est reposé. En ce sens, il ne saurait emmener le larron. D'ailleurs, ce dernier aussi était mort. Et la Bible dit dans Ecclésias 9, verset 5 à 10, les morts ne savent rien. Qui ça, la Bible a dit, frères et sœurs? Les morts ne savent rien. Jésus n'est pas allé au paradis le vendredi 14 Nisan. Le vendredi 14 Nisan, Nisan, mars, avril. Jésus n'est pas non plus ressuscité le dimanche Pâques. Ah, voyez-vous, là, quoi, ça? Jésus n'est pas ressuscité dimanche Pâques. Parce que Pâques l'a tombé samedi 15 Nisan. Mon cap dit Jésus ressuscité dimanche Pâques. Bluff, menti, li pas biblique. Parce que à cette époque, la Pâque tomba le samedi 15 Nisan. Jésus est mort le vendredi 14 Nisan. La Pâque est tombée le samedi 15 Nisan. Voilà pourquoi j'en dis que ce sabbat-là, ce fut un grand jour. Un grand jour. Pour quelle raison? C'était le sabbat, le mémorial de la création. Et la deuxième chose, c'était la Pâque du Seigneur. Jésus n'est pas ressuscité le dimanche Pâque, mais le dimanche qui a suivi la Pâque. Amen, frères et sœurs. Il est donc ressuscité le dimanche matin, 16 Nisan. Dimanche qui a suivi la Pâque. Sabbat 15-10 ans, ce fut un grand jour. C'était le sabbat et la Pâque. En Jean 20, verset 17. Texte que nous voulons lire pour terminer le message de ce soir. Est-ce qu'on peut afficher pour moi le texte, ce texte? Jean 20, verset 17. M'a voulu vous remonter, même voulu nous lire la même. Jean 20, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? Lisez avec moi. Est-ce qu'on peut afficher pour moi le texte? Jean 20, verset 17. Lisez avec moi, frères et sœurs. Mais Jésus lui dit quoi? Ne me touche pas. Ok? Je ne suis pas encore monté vers qui? Vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On va dire amen pour ça, frères et sœurs. Jésus n'est pas ressuscité le dimanche Pâques. Jésus n'est pas allé au paradis le vendredi 14 Nisan. Jésus est resté dans la tombe le samedi 15 Nisan. 15 Nisan, c'était la Pâque. Dimanche Pâques. Parce que Pâques, la terre était tombée depuis le samedi. Et ça fait la Bible a dit sous la plume de Jean que le sabbat ce fut un grand jour. Grand jour dans le sens que c'est le sabbat du Seigneur. Et l'autre sens, c'est parce que c'était la Pâque. La Pâque et l'agneau pascal de Dieu allait donner sa vie pour nous racheter pour le temps et l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un honneur pour moi de vous expliquer ce texte ce soir. Et pour finir, je voudrais que vous lisiez avec moi un dernier texte, bien avant de prier ce soir. Un dernier texte, c'est Romains chapitre 8, les versets, Romains chapitre 8, les versets... Romains chapitre 8, le verset 31. C'est pas le verset 30, c'est le verset 31. Merci. Verset 31. Verset 31. Lisez avec moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a dit ici? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous connaissez ça, frères et sœurs? En avancé, pour que ça le dit plus devant. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En avancé, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen, frères et sœurs. C'est pour ce qu'on justifie. En avancé, opérateur, en avancé. Nous parlons à la divine devant. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est où ça? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En avancé, opérateur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? En avancé, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destiné à la boucherie. En avancé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, mes sœurs. Plus que vainqueurs. Lisez avec moi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, frères et sœurs. Bien-aimés, le Seigneur a tout donné pour que vous et moi nous soyons sauvés ce soir. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas à vous morfondre parce que Christ a tout fait sur la croix. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Et quels que soient vos péchés, je suis heureux de vous le dire ce soir, quels que soient vos péchés, Jésus peut l'effacer. Vous y croyez, frères et sœurs? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, que nous allons prier le Seigneur ce soir, je ne sais pas si vous voulez prier avec moi ce soir, frères et sœurs. Nous allons chanter, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Mettez-vous debout, frères et sœurs. Nous chantons ce chant. Nous chantons la première strophe. Et après quoi,
Nous prions le Seigneur. Je demanderai à Frère Oulé d'adresser au Seigneur pour nous ce soir une oraison jaculatoire. Tu vas prier pour nous ce soir et demander à Dieu de pardonner les péchés de son peuple et de nous bénir pour l'éternité.
Merci. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole est puissante, elle est douce, qu'il fait bon d'entendre parler de ton salut, qu'il fait bon d'entendre parler du pardon, de la grâce que nous trouvons seulement en Jésus-Christ. Ce soir, nous avons entendu ta parole et nous acceptons cette grâce. Comme le brigand qui s'est repenti, nous reconnaissons que nous sommes indignes de ta présence. Nous reconnaissons que nous méritons tout mal qui pourrait nous arriver parce que nous avons profané ta sainte parole. Nous avons été infidèles. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons le salut en Jésus-Christ. Ce soir, nous venons vers toi pour te dire que nous aimerions jouir pleinement de cette grâce. Nous venons vers toi pour te demander de pardonner nos péchés, de nous laver et de faire en sorte que nous jouissions tellement de la grâce que ça devienne contagieux, que nous allons contaminer le monde avec cette grâce, faire que nous ne puissions plus rester sans partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons commencer cette période d'évangélisation. Tu nous as sauvés par grâce. Nous nous réjouissons de cette grâce. Et nous voulons partager cette grâce avec nos frères et sœurs de Pétionville, de Delma et des environs. Père Céleste, nous voici devant toi. Bénis-nous en ce soir. Bénis le pasteur qui a accepté d'être ton porte-parole en ce soir encore une fois. Et il a accepté d'être ton porte-parole les autres soirs de cette semaine et pendant la période d'évangélisation. Bénis-le donc. Donne-lui le courage dont il a besoin. Donne-lui la consécration dont il a besoin. Dicte-lui les mots qu'il doit prononcer soir après soir et faire que nous soyons tous transformés en retour. Sauve ton peuple, bénis-nous, fais quelque chose de spécial à Pétionville en ce mois de janvier. Nous te prions, non pas en vertu d'un quelconque mérite, mais c'est au nom de notre Sauveur qui est mort pour nous, qui nous a sauvés et qui revient bientôt nous chercher. Amen.